Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale qui va nous emmener jusqu'à 17h à la Raquel. Nous allons suivre la conférence de presse du procureur d'Auch. Bonsoir Olivier Truchot.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Conférence de presse pour faire le point bien sûr sur les investigations concernant la disparition de Liana. On va d'ailleurs retrouver Nicolas Dumas, il est devant le tribunal judiciaire d'Auch et on attend madame la procureure Clémence Meyer dans une demi-heure maintenant Nicolas.
Oui, il y aura nombreuses questions puisque d'abord, on espère connaître l'avancement de l'enquête pour enlèvement et séquestration de mineurs. Liana, l'adolescente de 11 ans, a été vue pour la dernière fois vendredi dernier vers 15h dans la voiture de Jérôme Barrella, le principal suspect dans cette affaire. Est-ce que la chronologie de ce vendredi après-midi a pu être affinée? Il y a aussi de nombreuses autres interrogations sur le passé du père de famille. L'homme est visé depuis l'été dernier par une plainte dénonçant des faits de viol multiples sur une amie de ses filles âgée de 10 ans que la rédaction de BFM TV a révélé hier soir. Quel a été le trajet de cette plainte déposée? Y a-t-il eu des dysfonctionnements de la part de la justice dans son traitement? Le ministre de l'Intérieur a annoncé cet après-midi deux enquêtes administratives, l'une confiée à l'inspection générale de la justice et l'autre à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Autre questionnement, en dehors de cette plainte pour viol déposée l'été dernier, est-ce que le suspect avait d'autres antécédents judiciaires? La procureure de la République d'Auch devrait apporter des éléments de réponse puisqu'elle va effectivement tenir une conférence de presse qui doit débuter aux alentours de 17h ici.
Merci Nicolas Dumas avec Léna Bocorni en direct d'Auch pour BFM TV. Les opérations de recherche continuent, bien sûr. Nous allons retrouver Suzy Bernard Ménéguez à Florence dans le Gers. C'est à Florence qu'a disparu la petite Liana. Donc opération de recherche toujours en cours et intense. Hein.
Oui, exactement. Là, il y a 40 armes qui sont mobilisées dans ce bois. On se trouve à quelques kilomètres de Florence et les bois de l'abattu. Et là, ce sont donc des gendarmes qui, depuis cet après-midi, s'activent pour retrouver des traces, des indices. Alors, nous restons bien derrière eux pour ne pas polluer le reste du site. C'est un escadron de gendarmerie mobile. Il fait donc du ratissage. Il s'aligne en peloton et s'avance progressivement. L'idée, c'est de ne laisser aucune zone, que toutes les zones, soient inspectées. Il faut que tout soit donc inspecté physiquement et visuellement. Et il y a un petit peu plus loin un chef de dispositif qui vérifie sur une tablette que tout est bien en place, que la ligne est bien droite et qu'elle avance de manière continue. L'idée, c'est de trouver un indice, une trace qui permettrait de retrouver la fillette qui a disparu, on le rappelle, vendredi en milieu d'après-midi.
Suzy Bernard Ménéguez à Florence dans le Gers avec Nassim Gomri.
Nous sommes avec l'ancien gendarme Philippe Zankiewicz qui est analyste colcaise au sein de l'association Indicéa. Je voudrais m'arrêter un instant sur les images qu'on a vues. Alors, elles n'étaient pas excellentes, c'est du mal à passer, mais ce bois-là qu'on fouille, cette battue, on voit les enquêteurs avancer prudemment, doucement. Qu'est-ce qu'on recherche concrètement?
On recherche d'une part des traces, des indices, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'on avance, hein, rien nous retient. Ils sont équipés pour. Hein, on a les rangeurs, tout ce qu'il faut. Donc, on va dans les ronces, on va partout parce que on peut être à la recherche d'un mégot ou de tout élément qui pourrait apporter quelque chose. C'est pas évident que ça soit important. Ça appartient à la scène de crime, mais néanmoins, tout ce qui va pouvoir être indépendant et étranger à la nature, on va ramasser, on a des petits sacs, on met dans ce qu'il faut, et après on rencontre, on apporte les affaires, et voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais on avance vraiment tranquillement, en ligne et prudemment.
Pauline Rovna, sixième jour de recherche, des fouilles qui ont été également menées dans un hangar agricole.
Oui, parce que il y avait besoin de vérifier si cet individu a travaillé à proximité ou si c'est un endroit dans lequel il a l'habitude de se rendre de manière fréquente. Donc en fait, il faut tout vérifier, tout signalement, toute information. Vous pouvez laisser aucun doute. Il n'y a pas de hasard. Il va falloir vérifier toutes les pistes possibles. Ça a été exploré et visiblement, là, les gendarmes ont quitté cette zone-là, mais ils ont peut-être pu récolter des indices. Vous voyez qu'ils sont suivis par des camions de police technique et scientifique, de l'IRCGN. Donc il y a un labo mobile qui suit, et à chaque fois qu'on trouve un indice ou ce qui pourrait s'apparenter à un indice, évidemment, on le récolte et on va l'analyser.
Mais que va pouvoir nous dire la procureure tout à l'heure? On n'a pas retrouvé Liana.
Ah non, ça je vous confirme, on n'a pas retrouvé Liana.
Donc pourquoi ce point presse à ce moment-là de l'enquête?
Alors, elle n'a pas le choix, la procureure d'Auch, parce que le dossier, il a été transféré au pôle criminel d'Agen. Mais là, ce dont elle va parler, c'est ce qu'on a révélé hier soir. C'est la plainte qui a été déposée en août 2025 par cette maman et sa fille de 10 ans. Et on comprend pas les dysfonctionnements, on comprend pas pourquoi ça a mis autant de temps, on comprend pas pourquoi est-ce que Jérôme Barella n'a pas été auditionné en 9 mois d'enquête préliminaire. Et ça, elle va devoir s'expliquer. Est-ce qu'elle acceptera les questions ?
C'est un peu l'enjeu. Alors justement, puisque vous faites référence à cette plainte que nous avons révélée, autant la recontextualiser, pardon, avec ceux qui sont les premiers intéressés.
Ça va pas, ni devant les autres. Je fais comme si ça allait. Pour mon ex-compagnon, il a posé la question, est-ce qu'il t'a violée ? Et ma fille, elle a répondu, oui. Je me suis écoulée. Ma fille, elle raconte que il me déshabille. Il essaie de pénétrer, que ça fait très mal pour elle, que plusieurs fois, il a fait.
Il vous disait que si vous ne voyez plus votre fille, elle allait se suicider.
Oui. Il va se pendre, puis il va se suicider si elle ne dit pas qu'elle a menti. Je l'ai appelé les policiers, je m'en dis clairement que je le saoule. Et si je n'arrête pas appeler, ils m'ont fait un mail pour un contrat harcèlement. Si la justice, il était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, l'arme n'est pas disparue.
Alors, il faut expliquer quand même, Laurent Malégué, pourquoi cette plainte n'a pas été traitée. C'est-à-dire, d'abord, il y a un problème de juridiction, et puis ensuite, elle reste lettre morte.
Elle va pousser la porte de la gendarmerie de Plaisance-du-Touche.
La maman de Rosa.
La maman.
C'est en Haute-Garonne.
C'est en Haute-Garonne. C'est dans la grande banlieue de Toulouse. C'est pas la même juridiction gauche qui est dans le Gers. Donc la plainte, elle est plutôt Alexandra Gonzalez qui a eu tous ces éléments hier soir, qui les a montrés avant de les révéler à l'antenne. C'est une plainte plutôt bien faite. Vous savez, des fois, on peut dire, les enquêteurs, que ce soit des gendarmes ou des policiers, ils vont prendre les choses un peu par-dessus la jambe, il n'y a pas beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'éléments. C'est une plainte très précise.
C'est-à-dire que la petite fille a raconté précisément ce qu'elle lui a fait subir.
C'est la maman, elle explique comment ça s'est passé, comment ils l'ont découvert. Elle donne un détail dont on peut évidemment pas parler ici, qui est un détail médical qui laisse pas beaucoup de doutes sur ce qui a pu se passer.
On parle de viol. Hein.
Elle apporte des précisions. C'est une plainte.
C'est très circonstancié.
Très circonstancié.
Absolument.
Prise par un gendarme qui connaît la matière. Mmh. C'est pas du tout à ce stade-là que ça a pu dysfonctionner. Mmh. La plainte, elle est transmise au parquet, donc au parquet de Toulouse, puisque la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, comme depuis la Révolution française, elle dépend de la préfecture de la juridiction de Toulouse.
Puisque
c'est la Haute-Garonne.
Sauf que
là, la Haute-Garonne, elle se rend compte parce que dans cette plainte, puisque c'est une maman qui connaissait très bien, puisque leur fille était amie. Tu sais, souvent, c'est les plaintes contre X, on ne sait pas qui est l'auteur présumé, donc ça peut mettre du temps. Là, l'auteur présumé, il y a son numéro de téléphone, il y a son nom, il y a son adresse, il y a tout. Et donc, la gendarmerie, le tribunal de Toulouse, ça va prendre 3 mois, va transférer la plainte au tribunal d'Auch, compétent sur la juridiction du Gers.
Plainte déposée en août, 3 mois, on est en octobre alors.
On est en octobre, ça arrive au parquet compétent, parquet d'Auch.
En décembre,
donc déjà on est en décembre.
En décembre, Pauline, ou en octobre ?
Elle le retrouve sur son bureau, la procureure, en décembre, et elle le transmet en janvier.
Bon.
Au gendarme.
Septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a
donc,
déjà 4 mois. 4 mois,
déjà.
Pour passer une frontière. Auch-Toulouse, c'est une grosse heure de route.
Oui.
Et ensuite, il va se passer
2025.
2025.
Décembre 2025.
Et ensuite, le tribunal d'Auch.
Août, dépôt de plainte. Décembre, ça arrive. Là, juridiction concernée.
On pourrait penser, parce qu'il y a cette frontière des départements.
Ouais.
Et on pourrait penser que le tribunal d'Auch, il saisisse le gendarme compétent qui a déjà pris la plainte, qui est en contact avec la maman, avec la famille, qui a déjà un peu débroussaillé tout ça. Eh ben non. Parce qu'il y a le département.
Donc c'est une autre gendarmerie qui va.
Donc il va saisir une autre. Alors là, il y a deux versions. Hier soir, je croyais que c'était la gendarmerie de Lectoure. Parce qu'en fait, le plaignant, il habite à Montestruc-sur-Gers. C'est à peu près à mi-chemin quand vous regardez entre la gendarmerie de Lectoure et la gendarmerie de Florence. C'est deux villes qui sont sur la nationale 21 entre Auch et Agen, le long du Gers. Et donc là, en janvier, le tribunal le parquet d'Auch saisit la gendarmerie Florence ou Lectour, je ne sais pas.
Enfin, il y a eu deux versions. Hier soir, on disait Lectour voilà, et dans le communiqué.
Donc, cinq mois après la plainte, enfin, des gendarmes vont... Des nouveaux gendarmes vont avoir cette plainte pour commencer une enquête.
Ah là,
alors, est-ce qu'à ce moment-là, en janvier, l'enquête démarre?
Pour mener, nous dit-on, de nouvelles investigations, quand même. D'accord, dans l'esprit, quand même, qu'on poursuit.
D'accord, mais est-ce que ça démarre tambour battant en se disant, il y a quand même une petite fille qui accuse un homme de l'avoir violé?
C'est exactement ce que va demander la procureure.
Ce qu'on sait, c'est que l'homme en question n'a pas été entendu par ces gendarmes.
Que l'homme en question n'a pas été entendu. Et on sait, alors c'est vrai que là, la procureure va devoir nous expliquer ce qui s'est passé. Mais on sait qu'entre janvier et juin, donc à nouveau cinq mois. A priori, il ne s'est rien passé. Pourquoi
donc, 10 mois après la plainte, il ne s'est rien passé.
Parce qu'on sait, mais ça, il y a des enquêteurs spécialisés. Dans la brigade des mineurs, il y a des enquêteurs spécialisés pour lire les analyser, les comprendre et réagir. On sait que dans ce genre de profil, de père de famille, il y a deux filles, on sait que dans ce genre de profil, potentiellement, je ne dis évidemment pas qu'il est coupable, il est présumé innocent, il y a potentiellement d'autres victimes.
Bah oui.
Et puis, il faut s'assurer de savoir quelle est la profession du monsieur ainsi mis en cause. Oui. Peut-être il peut travailler pour des enfants, peut-être il travaille dans une école,
Il a travaillé dans une école, puisqu'il en a été licencié en 2021.
Donc, apparemment, on voit bien que dans ce genre de plainte, et puis, Pauline, c'est vrai, Pauline, elle l'a lu aussi, c'est une plainte précise, circonstanciée.
Absolument.
Ça appelle une action rapide.
Il n'a pas eu lieu. Mais alors, justement, il faut écouter notamment ce témoignage d'un professeur de sport de cet homme, Jérôme Barella. Voilà ce qu'il raconte, c'est un témoignage recueilli par nos confrères d'RMC.
Très vite, on a repéré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il était tout le temps avec les enfants. À plusieurs reprises, on lui a dit « viens t'entraîner avec nous ». Et donc, on le sortait du groupe. On sentait que c'était pas son truc. Hein. On sentait que ça l'embêtait de se faire sortir du groupe, quoi, d'enfants. Honnêtement, je pensais même pas que c'était possible. Je suis encore aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer que ce soit possible qu'une telle personne existe. C'est des choses qu'on entend toujours qui nous paraissent plus ou moins lointaines, mais j'ai presque l'impression que la structure elle est souillée par sa présence quoi. C'est vraiment terrible. J'ai l'impression de pas avoir fait ce qu'il faut pour protéger une élève. Ça fait très longtemps maintenant que j'enseigne. On s'attache aux élèves, etc. Et voilà, quand il leur arrive quelque chose comme ça, enfin, c'est terrible. On en a parlé avec des parents d'élèves, mais les mamans ont fondu en larmes, quoi. C'est normal.
Nous trouvions qu'il passait trop de temps avec les enfants, en particulier avec une gamine qui prenait elle aussi des cours de sport. Donc il y a toujours un peu le même scénario.
Ce qui est terrible, c'est que c'est l'affaire de la disparition de Liana qui révèle une autre affaire et Maître Avrilizine qui met en lumière aujourd'hui le profil de cet homme. Alors attention, il est derrière les barreaux, il est suspect numéro 1. Et il y a la présomption d'innocence.
Oui, mais aussi, attention, peut-être qu'il y a d'autres affaires qui vont être révélées.
Je rappelle aussi qu'il est père aussi de deux enfants.
Ouais. Deux filles.
Voilà, donc il y a vraiment, je pense qu'on va devoir vraiment s'interroger sur sa personnalité dans le sens complet du terme et de toutes les personnes qu'il a pu côtoyer.
Et les dysfonctionnements.
Qu'est-ce que vous en pensez du fait que 10 mois après cette plainte déposée par la maman de Rosa, il ne s'est rien passé?
Évidemment, je vais vous dire que c'est honteux, mais moi, en tant qu'auxiliaire de justice, je me suis retrouvée maintes et maintes fois dans cette situation. Et alors, je ne sais pas si cette maman était déjà accompagnée aussi par un avocat ou pas, mais la plupart du temps, les personnes y vont seules et ne sont pas accompagnées par un avocat et ne prennent un conseil que quand il y a une mise en examen ou quand il y a une audience qui est fixée. Moi, souvent, j'ai des familles qui viennent à mon cabinet et qui me demandent de les accompagner déjà au stade de la plainte. Et c'est vrai que en dépit de mes relances, en dépit de mon suivi, alors peut-être que ça accélère parfois un peu quand même le traitement du dossier de mes clients, mais j'avoue que c'est loin d'être instantané, la réponse pénale est loin d'être immédiate et il y a souvent de longues semaines, voire des mois d'attente pour voir notre
dossier
traité.
Comment vous l'expliquez ? C'est parce que les gendarmes sont pas assez nombreux ou parce que finalement quand il s'agit d'enfants, c'est pas prioritaire ?
Ah non, on va pas dire que quand il s'agit d'enfants, c'est pas prioritaire. Je pense que risque. Bah, absolument
c'est pourtant
pas.
Ce que beaucoup de gens vont sans doute conclure après ces 10 mois d'attente.
Non, quand même, voilà, il peut y avoir des dysfonctionnements dans notre justice, mais pas au point de dire.
Pourquoi 10 mois
Les dossiers concernant les violences faites aux enfants ne sont pas prioritaires.
Pourquoi pendant 10 mois il ne s'est rien passé?
Alors pourquoi pendant 10 mois il ne s'est rien passé? Déjà, un début de piste, et le gendarme ici présent pourra peut-être confirmer, le fait est qu'il n'y a pas eu de flagrance. Donc, de fait, quand il n'y a pas de flagrant et que la personne n'est pas pris la main dans le sac, eh bien, dans ce cas-là, l'enquête ne commence pas immédiatement, et ce qui pourrait expliquer. Néanmoins, et ça,
en général,
évidemment,
il y a rarement de flagrant délit.
Non, mais évidemment, et j'entends aujourd'hui que vous avez lu la plainte et qu'elle était circonstanciée, et j'imagine la façon dont c'est circonstancié et la façon dont les actes sont décrits, évidemment, il y aurait dû y avoir une interpellation immédiate et on aurait dû mener en parallèle à l'interpellation, la garde à vue, les premiers actes d'enquête. Voilà, évidemment. Mais aujourd'hui, maintenant, que faire? On va essayer d'analyser ce dysfonctionnement.
On a Isor de la... D'ailleurs, il y a une enquête administrative qui est diligentée, voilà, à la demande notamment du ministère de l'Intérieur. Mm-hmm. Isor de la Gorce est à Florence, dans le Gers. C'est là qu'a disparu la petite Liana. Isor, parce que les enquêteurs ont déclenché aussi ce qu'on appelle un porte-à-porte afin de recueillir tous les témoignages possibles et imaginables.
Exactement. Cet après-midi, c'est opération porte-à-porte pour les gendarmes qui tentent de comprendre ce qu'il s'est passé l'après-midi de la disparition de Liana. Et pour cela, ils remontent le trajet qu'elle aurait pu effectuer vendredi après-midi, 1 kilomètre sur lequel il y a de nombreuses interrogations. En garde à vue, le suspect principal a indiqué avoir récupéré la fillette à son collège pour l'emmener à la piscine de Florence. Et donc, les gendarmes remontent ces rues où il y a de nombreuses habitations, de nombreuses maisons. Et ils font ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Ils posent des questions, ils récupèrent des numéros de téléphone pour tenter d'en apprendre plus, potentiellement de récupérer des témoignages qui pourraient être clés en ce 6e jour de recherche. Il y a 14 gendarmes qui sont mobilisés sur cette opération, qui effectuent donc toute une zone, tout un périmètre de recherche à la recherche du moindre élément, du moindre témoignage qui pourrait faire avancer les recherches.
Voilà, ce porte-à-porte, c'est toujours important. Le moindre témoignage peut être recueilli et mettre les enquêteurs sur une piste, quoi, en fait.
Tout à fait, il faut...
C'est basique, quoi, c'est
oui,
le béaba.
Dans ces genres d'enquête, même quelle qu'elle soit, il ne faut rien négliger. Donc, évidemment, on commence du plus loin, on avance au plus près, et après, ben, évidemment, il faut avoir des renseignements, ce qui est très important. En gendarmerie ou dans une enquête, le renseignement prime. C'est quelque chose, c'est un renseignement à vérifier. On ne prend pas en disant non, c'est pas nécessaire, etc. Non, on prend tout, et on voit après, avec le directeur d'enquête, comment on organise le renseignement. Il y en a qui sont farfelus, il y en a qui sont... Bon, peu importe. Mais le porte-à-porte est important, que ça soit dans un cambriolage, que ce soit dans un braquage, n'importe quoi. On faut aller aux environs.
Mais on est six jours après, c'est pas trop tard, il y a toujours des éléments à recueillir. Parce qu'on se dit que le porte-à-porte, il doit commencer tout de suite, quoi, en fait, non?
Mais ils ont commencé...
Parce que la mémoire n'est pas altérée, les souvenirs ne sont pas altérés.
Non, mais déjà, si on veut, il va y avoir trois pôles importants. Il va y avoir le pôle déjà opérationnel, ça va être les battues, ça va être la recherche, etc. Le pôle un peu plus technique, où il va y avoir justement la recherche du renseignement, les auditions à recueillir, et évidemment, il y a la vidéo, il y a tout ça, le parcours qu'il a pu faire, etc. Tout ça, c'est important. Et ensuite, il y a le pôle où ils vont s'occuper d'analyser les choses qui ont été prélevées. Mais dans ce domaine, je dis toujours, le temps, c'est l'ennemi de l'enquêteur, ça je répète toujours, et ça c'est vrai, bon, ça on le sait, mais je veux dire par là que il n'y a pas de retard, il faut aller progressivement, et comme on dit, il faut pas se louper. Donc, le porte-à-porte va être fait, le porte-à-porte justement sur tout le parcours que la voiture est passée. Il y a peut-être quelque chose, il s'est peut-être arrêté quelque part, etc. On ne sait pas. Donc c'est important à savoir.
Nous avons un témoignage maintenant, celui d'un père de famille qui est en visio avec nous, comme on dit. Il s'appelle Rudy. Bonsoir Rudy. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur BFM TV, parce que cette affaire de la disparition de Liana, avec le suspect numéro 1 dont on parle, c'est une affaire qui résonne chez vous parce que votre fille a été victime de pédophilie, justement.
Oui, en fait, j'ai déjà passé au GG.
Oui, avec nous dans notre émission le matin, oui, avec Olivier et moi.
En fait, En fait, je vous explique, c'est que ma fille a eu deux histoires, en fait. Une première histoire avec le papa d'une ex-copine qui devait faire une soirée pyjama. Ma fille, elle a 12 ans, pour rappel. Et elle devait faire une soirée pyjama avec une de ses ex-copines qu'elle avait retrouvées. Et c'est le papa de cette copine-là qui l'avait appelée pour lui envoyer des photos sur Snapchat, tout ça, de et de lui, en fait, nu. Lui, il est marié, hein, mais voilà. Entre-temps, le procès, il s'est passé assez rapidement, on va dire. Ça a pris 6 mois. Et cet homme-là, il a eu 6 mois de sursis et rien eu d'autre. Tout simplement, 6 mois de sursis. Et oui. Malheureusement, il y a une...
C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une seule minute de prison. Et qu'est-il devenu, cet homme, ensuite?
Il n'a rien fait. Cet homme-là, il est chez lui. Normalement, il y avait même un peu de dommages et intérêts pour me rembourser par rapport au procès. Et malheureusement, ben, il n'y a rien eu, il m'a rien payé, le sursis n'est même pas tombé. Et ce monsieur est toujours chez lui, il a toujours ses enfants chez lui, dont sa fille aussi.
Mm-hmm. Et il vit loin de chez vous ?
Il vit à 3 km.
3 km de chez vous et votre fille.
Vous dites que la justice... n'a pas protégé suffisamment d'autres victimes potentielles, c'est ça ?
C'est ça. Mais en fait, pourquoi aussi j'appelle pour ça ? Parce qu'il y a une seconde affaire en janvier 2026. Ma fille est sortie du collège à midi, et qui a 12 ans, toujours, elle avait toujours 12 ans. Et il y a un homme qui l'a interpellé, il était midi. Et ma fille, en fait, à ce moment-là, elle prend le bus. Cet homme-là, elle a poussé dans la voiture. Il avait 28 ans. Il est monté dans une montagne, parce que j'habite sur Gap. Il est monté dans une montagne. Il a violé, du coup. Et il a ramené au collège. Entre-temps, heureusement qu'elle avait le téléphone, parce qu'on a pu voir avec les applications Esprit pour savoir où elle était, parce qu'on se demandait où elle était. Et du coup, moi j'étais à Paris en convention, malheureusement, j'étais pas là, j'étais pas sur place. Et ma femme a été directement voir l'hôpital parce que ma fille, du coup, elle est sortie, elle était bizarre. Ma fille nous en a parlé, du coup, parce qu'à ce moment-là, on se demandait ce qui se passait. Et on a été à l'hôpital, ça a été prouvé comme quoi il y a eu viol, comme quoi il y a eu pas mal de choses, violence, tout ça. Mmh. Et on a été à la police. La police, ils l'ont arrêté. Enfin, ils n'ont pas réussi à l'arrêter parce qu'au départ, au niveau de l'enquête, ils peuvent pas tout faire, la police en France. En fait, ils peuvent pas faire un faux profil, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas l'arrêter comme ça. Du coup, moi, j'ai fait des recherches de mon côté. Ça a pris 24 heures et j'ai amené à la police. La police, du coup, ils l'ont arrêté le lendemain et ils l'ont mis en garde à vue.
Attention.
Ouais, il y a un garde à vue. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la procureure et le président, ils ont fait savoir qu'il fallait le mettre en détention provisoire parce que c'est une personne dangereuse. Ils avaient vu son dossier. Son dossier, il avait violé plusieurs petites filles avant, ce qu'ils nous ont dit à la police. Et à la fin, c'est le juge des libertés, des détentions de liberté qui décide. Et il a laissé libre. Il n'y a pas de mesure d'éloignement, il n'y a pas de contrôle judiciaire. Il y a du coup un juge d'instruction qui a été mis en place, sachant qu'il a violé plusieurs enfants. Mais ça remonte, depuis le mois de janvier.
Mais ça veut dire que cet homme est libre et je crois que vous l'avez croisé.
Cet homme est libre, je croise, parce que moi je suis commercial. Et quand je vais dans un magasin, je vois en face, en fait. Je vois sa voiture en face. Et puis, il passe souvent devant le collège. Il passe, voilà.
Il n'y a même pas d'interdiction de s'approcher du collège.
Donc, ça veut dire qu'on ne protège pas suffisamment, la justice ne prend pas suffisamment en compte le sort des enfants, on ne les protège pas?
Ah, mais complètement. En fait, on ne s'attend pas à ce que ça nous arrive. Et quand ça nous arrive, c'est là qu'on voit que la justice, ne protège pas nos enfants, en fait. On est le parent pauvre de l'État, je pense, quoi. Donc, c'est, quoi qu'il en soit, avec ce que je veux dire, avec les affaires qu'il y a eu entre Epstein, entre les affaires de tout ce qui est périscolaire, entre pas mal de choses. Rien n'est fait, en fait.
Alors, restez avec nous, Rudy, parce qu'il y a Maître Avril Lézine qui voulait réagir.
Ah oui, non, parce que là, c'est complètement lunaire, hein, ce que j'entends. Parce que
ça a été vérifié.
Je ne peux pas entendre qu'un JLD
Et un juge des libertés.
Oui, un juge des libertés et de la détention est placé sous contrôle judiciaire contrôle judiciaire à la souple, libre, sans aucune contrainte. Normalement, à minima, on doit quand même préserver la victime et sa famille. Il doit y avoir une interdiction de paraître au moins dans le département, à minima, pour pas tomber par hasard nez à nez avec son agresseur.
S'il vit là.
Non, mais de toute façon aussi, quoi qu'il en soit, ce qui me choque...
Le contrôle judiciaire, il faut les contrôler aussi.
Oui, non, mais le contrôle judiciaire, c'est une chose. Mais par rapport à ce qui justifie normalement le placement en détention provisoire, il y a aussi le risque de récidive. Lorsque vous avez une personne qui, a priori, de ce que dit ce monsieur, qui avait déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle, bah, à minima, on le place en détention provisoire, le temps d'évaluer sa dangerosité et
attention, il n'avait pas été condamné. C'est que en fait, il y a eu des plaintes et il y a eu des plaintes pour viol de petites filles qui n'ont pas été jugées en fait.
Qui sont en cours.
Mais là, il y a une question peut-être aussi de rapidité parce que il y a peut-être urgence quand même à enquêter et à faire en sorte si cet homme Philippe est effectivement coupable.
Il y avait un faisceau d'indices. Oui,
pour rebondir un peu sur le JLD.
Le juge des libertés et des détentions.
Il va regarder quoi ? Il va regarder. Il a un travail. Il a une résidence. Il a une vie de famille. Il peut se représenter quand on le voudra. Donc, il joue là sur cette carte.
Ouais, là, ce sont que les garanties de représentation.
Oui. Et puis après, il va vous dire, oui, mais les prisons sont surchargées, donc il va préférer un contrôle judiciaire.
Mais quand on parle de pédocriminalité, il y a quand même toujours le risque de la récidive.
Bah bien sûr, il est en liberté.
Et le risque de pression sur les témoins et le risque de fuite.
Et c'est pour ça que
de croiser les parents.
La justice est la justice, mais pour moi, c'est pas logique.
Et aussi le trouble à l'ordre public. Parce que quand on est dans une affaire criminelle, le trouble à l'ordre public.
Et le traumatisme de l'enfant qui va croiser cet homme.
Bien sûr.
Faut arrêter. Faut quand même un petit peu.
En fait, ma fille, malheureusement, du coup, elle est suivie par un psy toutes les semaines. Ses notes à l'école ont complètement chuté. C'est très difficile pour elle. Parce que je veux bien qu'on parle souvent des criminels, mais on oublie souvent les victimes. Et en toute honnêteté, elle a peur de sortir. Elle a peur de tout, en fait. Pour elle, chaque homme est un pédophile. Pour moi aussi. Donc, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et le problème, c'est que ce monsieur, il travaille pas. Il a pas d'enfant, il a pas d'attache, il a rien du tout. Il aurait pu être mis en détention provisoire. Il y a pas de souci. Donc c'est pour ça que
oui,
je me demande.
Écarté du département.
Mais Rudy, est-ce que vous avez su combien il y avait de plaintes finalement, s'il était impliqué dans bon nombre d'autres affaires ou pas?
Mais on m'a parlé déjà de trois plaintes. Et malheureusement, en fait, parce que du coup, après, il y a juge d'instruction et c'est en civil. Et les personnes qui ont porté plainte, parce qu'après, il faut un avocat. Et souvent, ça coûte très, très cher. Et de se faire rembourser, on le voit, sur ma première affaire, je ne me suis jamais fait rembourser. Du coup, les familles, soit elles ont honte d'aller jusqu'au bout, soit ça coûte trop cher. C'est difficile parce que souvent... Souvent dans ce qui se passe, en fait, il y a des gens souvent qui croient que c'est la faute de la petite, quoi. C'est souvent. Et il faut remettre les choses dans l'ordre, en fait. Sachant que c'est lui pédophile, c'est lui criminel.
Ouais, il y a un agresseur et une victime.
Il faut plus cacher. C'est pour ça que moi, je me mets directement chez BFM, comme voix, parce qu'il faut plus cacher. Ces gens-là, ils ne méritent pas la peine. C'est eux qui devraient avoir peur. Qui devraient avoir peur des victimes, qui devraient plus le faire. Et malheureusement, si on les affiche, c'est nous qu'on aura un problème. On l'a vu avec des youtubeurs ou quoi que ce soit. On dirait qu'ils ont le droit de tout faire, ces gens-là. Ils ont le droit de tout faire. Du coup, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien.
Vous disiez, c'est important de parler. Je vous remercie d'avoir accepté de parler sur BFM de cette affaire qui vous touche de près. Merci à vous, Rudy. Vous le voyez, là, d'ici quelques minutes, c'est la procureure de la République d'Auch qui va prendre la parole, Madame Clémence Meyer, concernant la disparition de Liana. On en est au sixième jour de recherche. Le suspect numéro un, lui, derrière les barreaux.
muré dans son silence, hein, puisqu'il a le droit de ne rien dire.
Il a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est que grâce au témoignage de la maman de Rosa qu'on a pu enregistrer hier soir, elle explique que...
Cette plainte qui n'a pas été traitée et qui concerne le suspect.
Exactement, les 10 mois, et effectivement, il y aura probablement des questions Jérôme sur le dysfonctionnement, évidemment. Rosa, elle a essayé au début de l'année 2025 de dénoncer ces faits auprès de sa maman. Et en fait, elle s'est rétractée. Pourquoi ? Parce que le suspect, Jérôme Barella, avait indiqué à la maman que c'était faux, qu'il n'avait pas commis ces faits, et il avait même accusé cette petite fille de manipulatrice tout en disant qu'il la considérait comme sa fille. Je reprends les mots de la maman.
Ça dit quelque chose de la personnalité de cet homme.
Ça dit absolument quelque chose de la personnalité, et ça pose des questions sur d'éventuelles autres petites victimes que Rosa, dans l'entourage de Jérôme Barella. Et c'est des questions qu'il faudra poser à la
D'autant plus que Rosa était donc, si j'ai bien compris, amie avec l'une de ses filles, c'est ça aussi ?
Oui, parce que cet homme, il a deux filles, l'une qui a 11 ans, amie de Liana. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact. Mais Rosa, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte
donc
des
c'est toujours
vols...
un peu le même scénario.
C'est le premier cercle. Elle raconte des viols multiples, au domicile de Jérôme Barella.
Lors de soirées pyjama.
Elle était invitée pour aller.
Elle a parlé de pénétration, si j'ai bien compris aussi.
Et il y a des examens médicaux.
Voilà. Donc on est quand même là. On apprend des choses sur ce profil de cet homme qui est assez manipulateur, qui est capable de retourner finalement et de mettre le doute, parce que la maman à ce moment-là ne va pas porter plainte et la petite.
Elle va y aller finalement au bout de
quelques mois. Et finalement, quand même, la maman se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on ne peut pas laisser. Mais ça dit quelque chose quand même de sa personnalité, cet homme.
Les pédophiles sont très souvent des très grands manipulateurs. Oui. C'est plus que la violence, c'est de la manipulation. Ça me fait penser depuis le début, cette histoire, à celle de Nordal Lelandais. Oui. Nordal Lelandais, il passe une soirée de mariage, rendez-vous compte, il est au milieu de tout le monde. Il y a tout le monde dans cette petite salle des fêtes. Et il parvient...
Alors, on va vous interrompre, Laurent, parce que
la
procureure...
Voilà, madame la procureure Clémence Meyer.
Ah, elle est repartie. Bon, elle veut vous laisser terminer.
Au tribunal judiciaire d'Auch.
Il parvient à convaincre la petite Maëlys qu'il ne part jamais sans sa maman, de le rejoindre à sa voiture, sans prévenir sa maman, et en passant par une porte dérobée, et pas par le même chemin que lui. Vous vous rendez compte la manipulation qu'il faut si ça, d'entrée de jeu... avant même qu'ils partent avec elle en voiture, ça ne signe pas une manipulation. Alors, c'est terrible, quand on connaît la suite.
Je voudrais revenir avec vous, Maître, pardon, sur ce qui doit quand même choquer ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui suivent cette affaire, c'est-à-dire le droit au silence.
Alors,
c'est-à-dire que l'accusé dit, je ne parle pas, je ne vais plus parler, je ne vais rien dire.
Je vais essayer d'être synthétique et de contextualiser. À savoir, lorsque vous êtes déféré au palais de justice et que vous êtes présenté à un juge d'instruction et il vous indique, j'envisage de vous mettre en examen et vous avez trois possibilités. Vous avez vous avez le choix, soit de répondre à mes questions, soit de faire des observations ou vous avez le droit aussi de vous taire. Voilà. Et le juge ne peut pas passer outre la décision du mise en examen.
Ça peut paraître aberrant d'offrir trois possibilités à quelqu'un qui est suspect numéro un. Parce que j'imagine qu'il y a des gens devant leur télé qui disent « il y a qu'à me le donner 10 minutes et moi je vais le faire parler ». Pardon, je réagis de manière un peu sèche comme ça, mais c'est comme ça qu'on le
donne.
On a tendance à plus penser à la famille de Liana qu'aux trois possibilités qu'on peut offrir à l'accusé.
Mais alors après il faut entendre que le droit de se taire, la plupart du temps, ne pose absolument aucun problème parce que l'enquête débute, que la personne, elle a souvent été éprouvée par une longue garde à vue et qu'elle n'est pas franchement en état pour répondre aux questions du juge. Et parfois même aussi, ça arrange le juge parce que lui-même vient de prendre possession du dossier, elle ne connaît pas encore tous les détails du dossier et il préfère interroger sur le fond le mise en examen quelques semaines ou quelques mois plus tard, une fois qu'il aura une parfaite connaissance du dossier. Donc, en règle générale, c'est pas très problématique le droit de se taire.
Là, ça l'est.
Là, ça l'est particulièrement.
Il y a un enjeu vital.
Alors, aussi, et je voudrais juste dire une chose.
On va vous interrompre parce que la procureure s'installe, a priori, définitivement.
Voilà. Madame Clémence Meyer, procureure d'Auch, qui va donc prendre la parole concernant la disparition de Liana.
Bonjour à toutes et tous. Au moment où je prends la parole aujourd'hui, avant toute chose, je souhaite avoir une pensée pour Liana, pour ses parents, ses proches et l'ensemble de ceux qui vivent aujourd'hui dans l'angoisse de son absence. Depuis le signalement de sa disparition, les enquêteurs, les magistrats et l'ensemble des services mobilisés ont pleinement conscience de l'épreuve qu'ils traversent. Chacun mesure l'inquiétude, l'attente et la souffrance que cette situation provoque depuis plusieurs jours. L'information judiciaire est désormais conduite par le pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen et les investigations se poursuivent activement. Par ailleurs, il a été annoncé ce jour l'ouverture d'une mission d'inspection destinée à examiner les conditions dans lesquelles la procédure antérieure a été traitée. Elle a été confiée conjointement à l'inspection générale de la justice et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Dans ce contexte, j'ai souhaité vous apporter des éléments factuels dont dispose le parquet d'Auch sur ces procédures. Mais je ne serai pas en mesure de répondre à des questions portant sur l'enquête judiciaire en cours ou sur les investigations qui relèvent désormais d'autres autorités. Trois procédures impliquant le mise en examen ont été identifiées par mon parquet, que je vais évoquer chronologiquement. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. En effet, son âge, 17 ans au moment des faits, ne permet pas de présumer une absence de consentement. Ce renseignement judiciaire a donc fait l'objet d'un classement sans suite par mon parquet en février 2018. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. Les actes d'enquête diligentés, notamment le rapport d'examen médico-légal, l'examen psychologique et les témoignages recueillis, n'ont pas permis d'étayer suffisamment ces déclarations. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Je rappelle en effet que pour que le parquet puisse poursuivre l'auteur d'une infraction pénale, il est juridiquement nécessaire que l'infraction soit caractérisée en tous ses éléments et que l'enquête établisse des charges suffisantes. Il a été considéré dans cette affaire que ces éléments faisaient défaut. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Les examens médico-légaux et psychologiques d'usage dans ce type de dossier ont été réalisés en septembre et octobre 2025. En octobre 2025, le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet d'Auch en raison du lieu de commission des faits dans le Gers. Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure, dans le Gers, pour poursuite de l'enquête. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires, notamment un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Par ailleurs, je tiens à vous informer que dans le cadre de l'enquête en cours qui portait sur l'enlèvement et la séquestration de Liana, un dirigeant d'établissement scolaire a spontanément contacté la gendarmerie le 31 mai 2026 pour signaler que le mis en cause avait fait l'objet d'un licenciement initié en 2020 alors qu'il était employé par la région Occitanie comme agent d'entretien. Licenciement initié en raison d'une relation inappropriée avec une lycéenne. Des vérifications urgentes sont en cours afin de savoir si ces faits ont donné lieu à un signalement aux autorités judiciaires. En l'état, aucune procédure en lien avec cet événement n'a pu être identifiée au sein de mon parquet. Enfin, il a été porté à ma connaissance ce matin le dépôt d'une nouvelle plainte pour viol sur mineur à l'encontre du mis en examen, dont je n'ai pas encore pu prendre connaissance dans l'entièreté de ses détails. Je n'ai donc pas en l'état d'éléments suffisants à vous communiquer sur le contexte et la nature des faits dénoncés. Ce que je tiens à vous indiquer aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration, les enquêtes judiciaires ouvertes pour viol sur mineur vont se poursuivre et vraisemblablement faire l'objet d'un regroupement afin de les traiter à la lumière les unes des autres. Il est tout à fait envisageable également que la procédure qui avait fait l'objet d'un classement sans suite en 2024 soit aussi réexaminée à la lumière des événements récents pour envisager une reprise des investigations. Voilà en l'état les éléments dont je pouvais vous faire part pour les procédures judiciaires qui ont été diligentées ou sont en cours au sein de mon parquet. Je vous remercie pour votre attention. Et comme indiqué de manière liminaire, compte tenu du contexte de l'ouverture d'une information judiciaire en cours à Agen et de la mission d'inspection qui a été confiée, je ne répondrai pas en l'état à d'éventuelles questions.
Et ce délai de 5 mois vous paraît-il raisonnable et acceptable par les parents ?
Comme je viens d'indiquer, je ne souhaite pas en l'état faire de réponse aux questions. Ce sera tout l'objet de la mission des inspections du ministère de la Justice et de la Gendarmerie nationale qui viennent d'être saisies. C'est l'annonce qui a été faite aujourd'hui que sera diligentée une inspection conjointe dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Je vous remercie.
Vous venez donc d'entendre la procureure d'Auch, Clémence Meyer, qui ne répondra donc pas aux questions. Mais là, on est parti de l'affaire Liana, la disparition de Liana, il y a 6 jours, qu'on n'a toujours pas retrouvé. Mais ça prend une autre dimension
c'est
maintenant.
C'est vertigineux.
Pauline Romna, parce qu'on se retrouve avec 6 affaires concernant le suspect numéro 1.
Alors 5 plus la disparition de Liana. On va les reprendre puisqu'elle les a détaillées par ordre chronologique, mais le premier sentiment qu'on a, c'est que c'est effectivement vertigineux et que c'est sériel. La procureure, elle détaille 3 procédures. La première, c'est un renseignement judiciaire qui arrive en décembre 2017 concernant une jeune fille de 17 ans, une relation qui dure quelques mois avec cet homme, qui est une relation dite consentie, elle est classée sans suite. Deuxième information, le parquet en janvier 2024 qui est saisi via une plainte qui a été déposée à Béthune avec une dénonciation de viol au domicile du suspect.
2022.
Là encore, elle a été insuffisamment caractérisée et elle a été classée. En août 2025, c'est la plainte dont on vous parlait hier soir. Cette plainte a été déposée par sa maman et sa fille et effectivement, cet enfant a été entendu et la procureure a pris le temps de refaire le trajet et d'expliquer le trajet entre le parquet de Toulouse, le parquet d'Auch. Et je rajoute donc 2 éléments que nous découvrons aujourd'hui. Un directeur d'établissement qui a pris attache avec le parquet pour expliquer que cet homme a été licencié en 2020 comme agent d'entretien suite à une relation inappropriée avec une lycéenne. On ne sait pas si ça a donné lieu à un signalement. Enfin, et j'en termine, vous allez me dire c'est très long, mais c'est utile. Une nouvelle plainte qui est arrivée ce matin, nous annonce la procureure d'Auch, concernant un viol sur mineur, mais elle n'en a pas encore suffisamment pris connaissance pour pouvoir le détailler. Donc c'est sériel. Il y a 5 procédures, si vous voulez, 5 dossiers concernant Jérôme Barella, en plus de la disparition
donc
de
Liana. Liana.
On est
peut-être. Il est derrière les barreaux, il faut le rappeler.
Il est en détention provisoire, il a été écroulé.
Donc, d'ailleurs, elle précise que tout va être regroupé, en fait, oui. C'est ça?
Par souci d'efficacité, parce que vous avez bien compris qu'il y a des choses qui se sont perdues, il y a des choses qui ont été insuffisamment caractérisées.
L'efficacité qui a manqué, visiblement,
mais là, il y a quand même.
Mais il y a quand même. Ce qui interpelle, c'est qu'à aucun moment, la justice n'a compris que cet homme pouvait être un prédateur et que finalement il a pu continuer, si tous ces faits sont avérés, à agir en toute impunité.
J'ai l'impression que nous ne sommes pas en 2026, parce que il y a quelques dizaines d'années, voire enfin plus de 100 ans, etc. Parce que il n'y avait pas les systèmes informatiques, il n'y avait pas de communication entre les différents services, et comme ça, il y avait certains prédateurs qui pouvaient passer entre les mailles du filet, parce que justement, on n'avait pas accès à cette information. Aujourd'hui, enfin, la justice.
Pourquoi ces délais sont aussi longs? C'est simplement sur l'affaire que BFM TV a révélée. Pourquoi entre la plainte du mois d'août et la gendarmerie et la demi-rie en janvier, pourquoi 5 mois, comme le rappelait Laurent Valdiguier, les deux, tout non, était à côté, là, enfin pourquoi c'est si long?
Non mais là, clairement, c'est honteux. Enfin, j'ai cru sentir quand même que même le procureur était mal à l'aise, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle répond pas aux questions, ouais. Parce que clairement, il y a eu dysfonctionnement.
Après, il y a eu des classements sans suite. C'est-à-dire qu'en 2017, l'affaire s'arrête. Il y a la plainte pour viol en 2022.
La justice estime que l'infraction est infusée.
Ça veut dire quoi quand ce n'est pas caractérisé?
Dans une infraction, il y a trois choses. Il y a l'élément légal, l'élément constitutif et l'élément matériel. Donc, dans l'élément matériel, on va mettre tout ce qui est l'élément moral. Et tout ce qui va mettre, l'élément matériel, va être la construction de cette infraction. Si tout n'est pas rempli, malheureusement, il suffit que ça n'aille pas, que ça ne colle pas, et c'est classé sans suite.
Voilà. Oui, mais est-ce qu'il est interrogé au moins?
Ah oui, bien sûr. Bah, normalement, oui.
Normalement, vous n'en êtes pas sûr?
Ça dépend comment.
Alors, il faudra demander les archives pénales. Alors, ce qui est intéressant aussi entre les lignes, c'est que la plainte qu'on a révélée hier soir, elle explique le trajet, elle explique les actes d'enquête qui ont été diligentés, la procureure, et elle explique qu'il était prévu qu'il soit placé en garde à vue. Ouais. Ah, mais il ne l'a pas été.
Mais là, dans ce que l'on a entendu et ce que dit madame la procureure, ça commence en 2017. Donc, c'est-à-dire quasiment il y a 10 ans, avec un classement sans suite de ce qu'on appelle un renseignement judiciaire contre le suspect. Qu'est-ce que c'est qu'un renseignement judiciaire contre le suspect?
Le renseignement judiciaire, c'est une information, il n'y a pas de plainte, mais on informe, on signale.
On signale, voilà. On dit voilà ce qui s'est passé avec ce monsieur. Voilà.
Et après, donc, c'est porté à connaissance du procureur au départ, qui lui va juger l'opportunité du poursuite, et il va mettre justement l'élément, je pense que c'est ça, il va mettre l'élément constitutif et tout ça en place. Mais le problème, c'est que si ça n'aboutit pas, c'est fini. ça ne tient, il sera même pas, il y aura pas ça comme
référent. À un moment donné, il faut penser aux victimes et notamment aux parents de la petite Liana qui ont appris hier soir avec nos infos qu'il y avait donc déjà une affaire similaire le concernant, qui n'avait pas été traitée suffisamment rapidement. Et puis là, on apprend que depuis 2017, cet homme finalement est régulièrement inquiété, suspecté de commettre des agressions sexuelles ou des viols.
Alors, je vais vous dire, moi, j'ai hyper honte pour les victimes, le traitement qu'on fait de la parole des victimes en France. Et je suis très, très, très en colère contre l'institution judiciaire. Qu'on entend de façon hyper présomptueuse nous parler « ne faites pas de procès médiatique »,« la présomption d'innocence »,« faut laisser la justice faire son travail ». Quand on voit des délais si longs de dépôt de plainte et d'enquête, je peux vous dire que moi, 8 patients sur 10 que je vois, c'est des victimes d'inceste, de violences sexuelles ou d'agressions. La parole, je la reçois quelques jours ou quelques heures après l'agression ou le viol, et parfois il y a des procès ou pas de procès, 8 ans, 10 ans après, avec des faits qui sont des non-lieux, des faits qui sont insuffisamment caractérisés, tout ça.
Cette lenteur judiciaire s'explique par le manque de moyens
seulement. C'est la honte. On n'a plus le droit d'écarquiller les yeux quand on entend les chiffres de la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles des enfants, qui dit que toutes les 3 minutes, il y a un enfant qui est violé et qu'il y a 160 000 enfants par an en France qui sont victimes d'abus et de violences sexuelles. J'interdis tout le monde à hausser les sourcils maintenant quand il entendra ces chiffres, quand vous voyez ce qui se passe.
Je peux pas caractériser les faits, mais la parole d'un enfant, c'est un fait déjà. C'est un faisceau de preuves, c'est un faisceau d'éléments. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Faut avoir du sperme, du sang, faut avoir des lésions pour comprendre qu'un enfant, quand il dit qu'il s'est fait violer, il s'est fait violer. Les prédateurs sont des prédateurs en série. Un pédocriminel ne fait jamais une victime. Mmh. Il en fait des dizaines, voire des centaines.
Et il ne s'arrête jamais. La récidive en matière de pédocriminalité,
la justice le sait.
C'est tout le temps, c'est fréquent.
Si Dominique, vous le savez, la justice le sait.
La justice le sait.
Effectivement, mais... les sans doute face à quelqu'un de très dangereux qu'il fallait arrêter à un moment donné. Et mais qu'on n'a pas arrêté, et aujourd'hui, on a une petite fille qui a disparu depuis 6 jours.
Mais quand il y a des victimes, il y a aussi des auteurs présumés. Et le travail de la justice, c'est aussi d'entendre l'auteur présumé.
Bien sûr.
Tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il a été entendu en 2017? Bien sûr qu'il a été entendu. Mais quand il est entendu, c'est à la fin de la procédure. La procureure l'a dit tout à l'heure. Le dernier stade, la dernière personne qui sera entendue, c'est lui.
Oui, mais Dominique,
donc, une fois que l'enquête aura été faite, une fois que des examens médicaux...
L'auteur présumé, lui, il a le droit de garder le silence. Ouais. Alors que la victime, on lui demande,
mais
quand c'est un petit garçon,
Johanna,
s'il n'a pas eu d'érection...
Sans que vous vous énerviez. Parce que vous êtes passé.
C'est une colère sincère.
J'en ai raison parce qu'en fait, entre les victimes et les auteurs, l'auteur doit être défendu, il a un avocat et son avocat le défend. Et c'est bien normal. Maintenant, le droit des victimes et celui des auteurs, et vous le savez mieux que moi encore, eh bien, il n'est pas le même en France. Je vous rappelle juste que devant une cour d'assises, les auteurs, l'auteur Cédric Jubilard peut faire appel de sa condamnation.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais que la victime, la famille de Delphine Jubilard, ne peut pas faire appel de la condamnation. C'est-à-dire que s'il avait été acquitté, eh bien, le parquet pouvait faire appel, mais la victime, la famille de Delphine Jubilard, n'aurait pas pu faire appel. Ça montre bien la différence de traitement entre les auteurs
Pour revenir quand même à ces dysfonctionnements, vous dites vous-même, on sait aujourd'hui qu'un pédocriminel, en général, il recommence.
8 fois sur 10, même 9.
C'est inexplicable ce délai.
Parce qu'il monte en puissance, Olivier.
Ce délai d'attente dans l'affaire de 2025.
Parce que c'est quelqu'un qui monte en puissance, c'est quelqu'un qui va d'abord se livrer à des attouchements. Regardez, c'est exactement le cas. Il sort les jeunes filles de la douche, il leur touche les fesses. C'est ce qu'elles racontent à leurs parents, et visiblement c'était vrai. Et puis ensuite, ça monte en puissance, et aujourd'hui, Liana disparaît, et il est dans l'entourage de Liana.
Donc,
au moment
tant
où
qu'on n'arrête pas, il va de plus en plus loin.
De pire en pire. L'impunité, ça donne du pouvoir à un prédateur. Et en cela, la justice est une responsabilité. Un prédateur qui n'a pas été arrêté ou qui passe systématiquement à travers les mailles du filet parce que les faits sont insuffisamment caractérisés ou il y a prescription... C'est un prédateur qui ira de plus en plus loin. La justice a donc une responsabilité.
Sachant qu'il faut les arrêter vite, on ne l'a pas fait là, c'est quoi? C'est un problème de bureaucratie, parce qu'il fallait trouver le bon tribunal. C'est un problème de manque de moyens. Moi, j'aimerais bien comprendre.
Et il faut faire attention quand on interpelle quelqu'un, parce que justement, il peut y avoir un vice de procédure, un vice de forme. Donc, mais ça peut arriver. Donc, évidemment qu'il ne faut pas perdre de temps. Ça, c'est certain. Mais
on en a perdu.
Je pense pas on en a perdu, mais l'enquête a continué. L'enquête a continué. Ils ont cherché un petit peu son passé.
Il n'a pas été arrêté depuis 2017. C'est simplement parce que là, ce qui est important, c'est à chaque fois, visiblement, les faits n'ont pas été suffisamment caractérisés.
Oui.
Donc ça veut dire que peut-être, de lui-même, il savait jusqu'où ne pas aller. Il savait se réfréner en se disant
ou peut-être il savait aussi masquer ses
ou peut-être
les victimes ne parlent très peu souvent dans l'immédiat.
Elles avaient peur.
Mais il y a le choc, il y a la dissociation, il y a l'amnésie traumatique.
Il y a la honte aussi parce qu'il y a
un examen médico-légal une semaine, deux semaines après, il y a
pas que la première affaire remonte à 2017. C'est une mineure de 17 ans. Aujourd'hui, on nous dit qu'il a 41 ans, on enlève 9 ans, il avait donc 32 ans et elle 17
ans.
Voilà ce que disait la procureure à propos de la première histoire qui concerne le suspect numéro 1 dans l'affaire de Liana.
Oui.
Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée.
Pas d'infraction caractérisée, 17 ans, 32 ans, on considère qu'elle savait ce qu'elle faisait, lui aussi,
le témoignage...
Seulement, c'est quand même mis en avant par la procureure. Hein.
Oui, mais alors, les questions d'emprise. Un homme qui a 32 ans sur une jeune fille qui a 17 ans. On a déjà entendu cet écart d'âge il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans les témoignages. La dissociation, la sidération, les menaces, le harcèlement, exactement, je fais allusion à ça, le chantage au suicide qu'il a déjà fait, si tu parles ou si tu continues pas à répondre à mes demandes, je vais me suicider.
Donc il y a l'aspect manipulation aussi.
Ça compte pas. C'est pas des faits suffisamment caractérisés. Et je vais vous dire, je pense à quelque chose...
Si c'est pas suffisamment caractérisé, pourquoi est-ce que la procureure le met en avant aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de poursuite, puisque ça n'a pas été caractérisé?
Parce qu'on recherche tout le passé.
C'est ça qu'on va le trouver.
Évidemment, parce qu'on cherche tout le passé judiciaire.
Et je suis très inquiète, très inquiète, parce que c'est un père de famille. Oui. Il y a deux petites filles chez lui.
Absolument.
Et il y a peut-être une maman qui n'ose pas ou qui ne témoigne pas, alors que la non-dénonciation sur mineur est un délit en France.
J'ai peut-être un indice sur le fait que en 2017, ça a été classé sans suite, parce que aussi, mais je n'ai plus en tête là la date de la loi, mais avant,
2021.
À partir de 15 ans,
2021.
Voilà, on décidait que
c'était la majorité sexuelle
et qu'on pouvait consentir
avec un adulte
à avoir des actes sexuels avec un adulte. Donc je pense que c'est qui a pu grandement expliquer.
Mais c'est pas l'affaire la plus peut-être spectaculaire entre guillemets de ce que nous raconte la procureure. Moi, je trouve que ce qui s'est passé en août 2025 est effarant. Enfin, ce qu'on a révélé hier, où on a une petite fille qui raconte à sa maman que cet homme l'a violée
à de multiples reprises.
Alors cet homme qui est assez visiblement manipulateur réussit à convaincre, à mettre le doute finalement et pousser la petite fille à se rétracter en disant si tu fais ça, il y a une menace.
En disant qu'elle est manipulatrice et en disant qu'il la considérait comme sa propre fille. Et c'est pour ça que je rejoins votre inquiétude. Et en plus, il la viole à plusieurs reprises, raconte-t-elle, à son domicile.
Et la maman, quand même, se dit, il s'est passé quelque chose, elle va porter plainte. Et là, la justice, finalement, n'écoute pas cette maman suffisamment. et donc, cet homme est laissé en liberté et malheureusement, il a sans doute recommencé
la guerre. C'est surtout la parole de l'enfant qu'on n'a pas pris en compte.
Ben oui.
C'est ça, surtout, parce qu'on n'écoute pas les enfants. Et c'est une catastrophe.
Pourtant, quand même, avec toutes les affaires qui se succèdent.
Pourquoi est-ce que la parole d'un enfant serait moindre qu'un adulte, s'il a vécu quelque chose?
Il y a eu outre.
Outreau, c'est exagéré. C'est pour ça, justement, qu'on...
Depuis Outreau, peut-être aussi, on a changé les choses.
Mais la parole de l'enfant, elle est aussi importante. Il a subi des choses qu'il raconte à sa manière.
Oui.
C'est pour ça que dans des brigades, il y a des objets, des jouets, etc. Il y a dans les...
La procédure Mélanie.
Pas dans tous. Mais bon, il y a la BPVJ qui faisait ça aussi. Mais je veux dire, il faut absolument écouter l'enfant. Mmh. Bon, évidemment qu'il y a des enfants qui vont raconter des craques. Ça, c'est bon. Je veux dire, mais dans l'ensemble, il faut quand même écouter. Il y a, comme je dis, il faut rien négliger. Il faut, et ça a du poids.
2017, on a cette relation, il a 32 ans, avec cette jeune fille de 17 ans, pas suffisamment caractérisée. Mm-hmm. On passe en 2022. Là, on est à Béthune. Il y a une plainte pour viol. Et là encore, on nous dit, la procureure nous dit qu'elle est classée sans suite.
Non, c'est en 2024, pardon.
Parce que là, on met 2022
C'est en 2024. La procédure est reçue.
Sur le bandeau, d'accord.
Est reçue en 2024. Et effectivement, elle vient de Béthune. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé au domicile de Jérôme Bayrou.
Vous voyez, c'est le même scénario.
Ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, la question, c'est 2024, et on sait que les pédocriminels voyagent beaucoup. Mmh. Pour ne plus, parce qu'ils sont un peu désignés, parce qu'on sait qu'ils sont dans les endroits où ils habitent, et on sait qu'ils voyagent beaucoup. Le meilleur exemple, c'était Christian Van Gelleven, 1991, qui quitte Saint-Dizier. Il est marié, sa femme enseigne le catéchisme, ils ont deux enfants, il est cadre commercial supérieur, il parle plusieurs langues, et il part dans le Midi chercher du boulot, parce qu'il peut plus rester dans cette région où tout le monde sait ce qu'il a fait, des attouchements, des choses comme ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est 2024, Béthune, et pourquoi 2025, Auch, dans le Gers? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il passe de Béthune à Auch? Est-ce qu'il était à Béthune en vacances et qu'il a fait quelque chose? Visiblement, il habitait plutôt Béthune. Il était plutôt
surtout que la
là-bas.
Plainte était, pardon, mais la plainte ensuite, à Béthune, c'est Béthune, bien ce que j'ai, voilà, est déposée en 2022.
Mais c'est classé en 2024.
Et c'est classé en 2024.
Et
deux ans.
Il est parti, Alain. Et entre-temps, il est parti vivre ailleurs. Maintenant, il vit à Auch, dans le Gers.
Ouais.
Il est parti avec sa femme, avec ses enfants.
Et dans le sud.
La question, deuxième question, je vais un peu loin, mais Christian Van Gelleven, sa femme savait tout. Je reparle de cette affaire de 91. Elle va même voir le rédacteur en chef du journal local à Reims, en lui disant, écoutez, voilà, mon mari a été interpellé pour avoir regardé des petites filles à la sortie de l'école, les avoir touchées un peu. Si on pouvait éviter d'en parler, j'enseigne le catéchisme. Et le journaliste, le rédacteur en chef local va dire, OK, on n'en parle pas. quand l'affaire sortira plus tard, quand Christian Van Gelderen tuera Muriel Sanchez et Ingrid Van de Portal à Elne, près de Perpignan, en 91, eh bien, le rédacteur en chef du journal sera viré. Vous voyez, mais ça veut dire la puissance aussi, ça reste dans la famille, on n'en parle pas, on se tait, et ensuite on va vivre ailleurs.
Vous moi, êtes en train de dire, que sa compagne, la mère de ses enfants, a sans doute des choses à raconter à la justice.
Bien sûr, quoi, ça ne veut pas dire qu'elle a quelque chose à voir dans.
Non, mais elle a des choses à raconter.
Mais elle a des choses, on va lui poser des questions.
Alors, on va retourner au tribunal judiciaire d'Auch. C'est de là qu'on a suivi la conférence de presse de la procureure Meyer. Nicolas Dumas est sur place pour BFM TV parce que. Avec ce qu'a dit la procureure, cette affaire prend la disparition de Liana prend maintenant une autre ampleur, Nicolas.
Oui, parce qu'il y avait trois autres affaires. La première remonte à 2017. Elle est classée sans suite en 2018. Il aurait entretenu une relation avec une adolescente de 17 ans qui aurait été consentie, selon les mots de la procureure. Une deuxième procédure judiciaire en janvier 2024 avec une plainte déposée au commissariat de Béthune sur des faits de viol sur une mineure de 7 ans à l'époque. Des faits qui se seraient produits en 2020. Mais selon la procureure de la République d'Auch, les actes diligents n'ont pas permis d'étayer les faits reprochés. La plainte a été classée sans suite en mai 2024. Et la troisième procédure, elle concerne celle que la rédaction de BFM TV vous révélait hier soir, des faits qui se sont produits de septembre 2025 à mai 2026 sur une mineure de 13 ans. Des actes d'enquête complémentaire ont été demandés avec pour la mise en garde à vue à la fin de l'enquête qui était en cours, a indiqué la procureure de la République, qui précise aussi qu'une quatrième plainte a été déposée ce matin, mais qu'elle n'a pas d'éléments issus de cette plainte pour le moment. Elle précise aussi que les enquêtes vont se poursuivre et que le parquet va procéder à des regroupements des différentes affaires et réexaminer aussi celles qui ont déjà été classées.
Voilà, Nicolas Dumas, Auch, avec Lénie Morconi pour BFM TV. Donc, on est sur un dossier maintenant qui prend de l'ampleur, avec des plaintes qui vont être regroupées. Qu'est-ce que ça permet, le regroupement, justement, maître, alors?
Ben, de toute façon, ça n'aurait pas de sens de confier, de dissocier tous ces différents crimes. Je pense que...
Qui va gérer ça?
Voilà, c'est un juge d'instruction qui va être désigné. Peut-être même deux juges d'instruction, parce que potentiellement, il y a beaucoup de travail à effectuer. Et donc, je pense que, vu l'émoi que suscite cette affaire, sans doute, que deux juges d'instruction vont travailler de concert sur cette affaire et vont investiguer pour déjà sur les affaires classées. Donc ils vont demander à pouvoir lire, prendre connaissance des archives pénales, parce que même si un dossier fait l'objet d'un classement sans suite, tous les procès-verbaux sont conservés.
Donc on peut les réexaminer.
Oui, là, exactement.
Rappelons quand même que la priorité, c'est toujours Liana. Il y a certes des affaires antérieures qui expliqueront sans doute le parcours de cet homme, sa personnalité et comment il a pu passer entre les mailles du filet. Mais enfin, il y a une urgence quand même à retrouver Liana qui a disparu depuis 6 jours.
L'urgence à retrouver, c'est que...
Il y a des battues qui ont lieu encore
si
aujourd'hui.
Même si l'espoir est ténu et faible, on a quand même l'espoir que peut-être elle est séquestrée et vivante encore quelque part, même si, bon, c'est vrai qu'avec lui, de jours,
on est de plus en plus inquiet.
Oui, on est de plus en plus inquiet.
Techniquement, le ressort de la cour d'appel d'Agen, c'est 3 départements. C'est le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne. Ça signifie que toute instruction criminelle dans l'un de ces 3 départements est instruite par un juge du pôle criminel d'Agen, le lieu de la cour d'appel. Ensuite, si cet homme a commis un acte criminel ou délictuel, il sera jugé dans le département, par une cour criminelle, cour d'assises, ou une cour criminelle départementale, en fonction de la peine encourue.
Oui, non, là, non. Ce sera une cour d'assises.
Oui, ça sera une cour d'assises. Oui,
là, c'est
un délit criminel. Bien sûr, donc ce sera une cour d'assises. Mais les cours criminelles départementales, qui avaient été mises en place par Éric Dupond-Moretti...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jury populaire
dans ces cours, il n'y a pas de jury populaire.
C'est essentiellement pour les affaires de viol, effectivement.
Et ça fait bondir les avocats, parce que techniquement, quand les juges jugent, le peuple n'est pas là.
Bah oui. Pourtant, on rend la justice
en
nom du
peuple. Bien sûr, on rend la justice.
Néanmoins, le sentiment là, enfin moi, la lecture de la conférence de la procureure d'Auch, c'est que c'est vertigineux en fait. On n'est pas avec un seul cas, un deuxième cas.
Et on ne sait pas encore.
Et vous savez, pourquoi on ne le détecte pas ce type ? Parce qu'en fait, il n'a pas de dossier, il n'a pas de condamnation. Il a un casier judiciaire. Dire tout ce qu'on raconte et tout ce que ceux qui nous regardent et nous écoutent nous entendent raconter, il faut savoir qu'il n'a pas de casier. Oh, là, il y a des soupçons.
Il y a des histoires en cours.
Il y a des plaintes, mais pas suffisamment caractérisées.
On comprend ça, mais ceux qui nous regardent ne doivent pas comprendre pourquoi il y a une multiplication quand même.
Bien sûr.
Mais oui.
De signalements, certes, qui n'aboutissent pas, mais enfin qui devraient quand même être la puce à l'oreille.
Si vous tapez Jérôme Barella au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, il y a rien. Il n'y a pas de Jérôme Barella. Il n'existe pas en tant que délinquant, criminel, sexuel.
Donc il y a des dossiers. Attendez, parce que je voudrais qu'on aille retourne à Florence. Florence, c'est là où a disparu Liana, que les enquêteurs, bien sûr, cherchent toujours. C'est Isor de la Gorce qui est sur place pour BFM TV, parce que vous avez suivi la conférence de Madame la procureure, et vous êtes avec une habitante de la commune maintenant.
Effectivement, on va discuter justement de ce qui a été dit pendant cette conférence avec Flora, qui est habitante de Florence. Vous êtes mère de 3 enfants, 3 garçons. Qu'est-ce que vous êtes dit avec cette affaire et la disparition de cet enfant ?
On se dit qu'en fait, c'est un cauchemar. On est dans un film, c'est pas possible. On a Florence, on est une petite commune, tout le monde se connaît. On voit ça que dans les grandes villes ou à la télé, mais ce n'est pas possible. Ça fait vraiment, ça fait très peur. Ça fait très peur. On sait qu'il y a des tarés partout, mais ouais, c'est dur. C'est dur pour surtout pour, en pensant aux parents, aux à la famille, aux amis de cette petite Liana. C'est affreux.
Et alors là, la procureure d'Auch a annoncé qu'il était visé dans 3 procédures et qu'une nouvelle plainte pour viol avait été déposée mercredi. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ça, qu'une personne qui habitait ici était visée par ce type de plainte ?
Mais que fait la justice ? Je suis désolée, que fait la justice au bon moment ? Enfin, il y a eu des viols, il y a eu des plaintes, il y a eu des plaintes. Donc, pourquoi il n'y a pas eu déjà directement quelque chose de fait ou un suivi ou du moins, voilà, trop d'interrogations. En fait, ça sert à quoi qu'on porte plainte si au final, il a tout le temps, mais librement de faire libre cours à ses activités et surtout, de faire ça, quoi. C'est aberrant. Franchement, c'est aberrant. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur.
Là, on sent une certaine colère. Comment vous sentez par rapport à vos enfants
Moi, je suis mort de trouille. Honnêtement, je suis mort de trouille. La première, je pense qu'on est mort de trouille. On n'ose même plus. Moi, mes enfants, de temps en temps, ils partent en ville tout seuls, mais là, j'ai même plus envie. Enfin, je pense qu'il allait même partir du collège ou de l'école à l'école de musique qui était à côté. Même ça, on n'en ose pas. Enfin, on se dit, mais en fait, il suffit que. D'une seconde, d'une minute. On a beaucoup de rancœur ici. La lourdeur, de toute façon, se sent. Depuis ce week-end, on est tous le qui-vive à essayer de vouloir soutenir cette famille. Les démarches, bien sûr, de toutes les autorités, on comprend pas. Honnêtement, ça fait mal. Pour nos enfants, ça fait mal. Et même nos enfants nous posent des questions. On ne sait pas comment leur répondre parce que nous-mêmes, on se sent vraiment dépourvus. Et au fur et à mesure, les témoignages qu'on a, c'est accable, qui accable ce suspect, c'est aberrant que la justice n'ait rien. Enfin, je ne sais pas. C'est incompréhensible.
Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et vous l'aurez compris, c'est une véritable onde de choc ce qui se passe ici dans ce petit dans cette ville de 6000 habitants.
On va rester à Florence et on va retrouver cette fois-ci Suzy Bernard Meneghez parce que c'est retrouver Liana qui est l'urgence aujourd'hui bien sûr, la petite a disparu depuis 6 jours, 6 jours de recherche et les investigations continuent Suzy.
Oui, tout à fait. Ces gendarmes que vous voyez ici sont sur le pont depuis plusieurs jours déjà. Et cet après-midi, eh bien, ils ont repris les recherches. L'objectif, c'est donc de trouver un indice ou une trace qui pourrait permettre de retrouver Liana. Alors là, on doit suivre des consignes strictes. On doit bien rester derrière eux pour ne pas polluer les devants des alentours. Et donc, c'est un escadron de gendarmerie mobile qui fait du ratissage. Alors, ça veut dire qu'ils s'alignent en peloton et qu'ils s'avancent progressivement pour que toutes les zones soient bien inspectées physiquement et visuellement. Et devant, il y a un chef de dispositif qui vérifie sur une tablette et s'assure que la ligne de peloton est bien droite et qu'elle avance de manière continue. L'objectif, c'est donc que tout soit passé au peigne fin, que rien ne soit laissé au hasard, car pour l'instant, après 6 jours de disparition, le moindre indice, le moindre élément qui permettrait de retrouver Liana est toujours très important pour les enquêteurs.
C'est oui, il ne faut pas oublier ces investigations.
Monsieur le gendarme, parce que là, effectivement, c'est important de revenir sur les mots de la procureure, de cette enquête qui est en train de prendre une ampleur considérable, puisqu'il y a d'autres affaires, et on découvre une personnalité, Jérôme Barella, qui est peut-être un prédateur, hein, un serial prédateur, on pourrait l'appeler comme ça. Mais l'urgence quand même pour les enquêteurs, les gendarmes, les 180 gendarmes mobilisés, c'est trouver Liana.
Après 6 jours
oui,
de recherche.
On n'a pas de corps, et quand on n'a pas de corps, évidemment que la personne, l'auteur va se retrancher sur le fait de dire que voilà, c'est au moment donné où on va avoir des preuves, comme pour l'affaire Le Landais, c'était pareil, une fois peut-être, en espérant qu'une fois que les preuves sont là.
Et Le Landais, il a parlé au bout de combien de mois ?
Plusieurs mois.
Plusieurs mois.
Avec
oui.
une micro-goutte de sang.
Oui, oui.
Dominique, vous en avez parlé.
Lui aussi s'est muré dans le silence.
Oui, ah oui, oui. Mais bon, alors peut-être que c'est.
Donc, vous pensez qu'un élément qu'on retrouve peut. Pousser Jean Barella je sais pas,
je
à
sais pas
enfin parler.
Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête cet individu, mais il faut savoir que bon, comme on dit, c'est un PNM, hein, un pervers narcissique, un manipulateur.
Ah, merci.
Et donc, c'est une terme. Bon, et donc, il a quand même dans son crâne une forme d'intelligence dans sa manière d'opérer. Bon, entre guillemets l'intelligence, hein. Mais néanmoins, oui, il va falloir lui amener des preuves pour justement qu'il puisse peut-être se décoincer.
Un pervers narcissique, Johanna.
Oui, pervers narcissique, c'est une terminologie qui est, oui. qui est assez récente.
On l'utilise un peu à tort à travers.
Voilà, c'est pas une pathologie, c'est pas dans notre manuel de diagnostic, le DSM-5. Il y a des personnalités qui sont narcissiques, c'est des personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes, qui ont des tendances à la manipulation. Et maintenant, on parle de pervers narcissique, c'est parce que au-delà de la personnalité narcissique, il y a ces travers de perversion, c'est-à-dire du plaisir à faire souffrir ou à voir l'autre souffrir. Et donc on voit ces profils-là, notamment chez les prédateurs, notamment chez les personnes qui jouent de manipulation et qui se jouent un petit peu des autres. Alors, voilà, c'est des caractéristiques qu'on retrouve de plus en plus.
Rapidement sur les recherches dont on parlait tout à l'heure, dans le magazine très intéressant qui s'appelle L'essor de la gendarmerie, il y avait un article récemment qui disait que les gendarmes ne souhaitaient plus. Visiblement, que les civils, les citoyens participent à des battues.
Pourquoi?
Parce qu'on l'a vu dans l'affaire du petit Émile. Hein, le citoyen n'est pas formé pour. Donc là, il y a 180 gendarmes qui sont là-bas, les gendarmes du CRU. Et on a fait venir un escadron de gendarmerie mobile, ça veut dire 85 bons hommes, qui viennent de Clermont-Ferrand. Et eux savent comment on procède à des fouilles, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on observe, on ne fume pas sa clope en faisant des recherches, en disant « tiens, je vais peut-être voir Liana ici ou là ». On ne laisse rien sur place, vous voyez. On ne laisse absolument rien sur place, il faut vider ses poches avant d'y aller, il faut que tout le monde ait par exemple le même type de chaussures. Parce que si on a tous le même type de chaussures, à savoir des rangers gendarmerie, on laissera des traces de rangers gendarmerie. Si l'un de nous ici, 7 autour de cette table de la fin, qui a les mêmes chaussures, on aura 7 empreintes différentes. D'accord. Donc, les gendarmes ont dit à un moment, stop, ça suffit. Tout le monde. Alors, si après eux, après avoir vérifié certains endroits, disent on a besoin du concours de la population parce que par exemple des chasseurs, des ramasseurs de champignons,
c'est exactement le cas,
des joggeurs,
là,
des cyclos,
ils ont parlé effectivement de tous ces corps en disant fine connaissance du terrain, c'est une force d'appoint, mais c'est pas eux qui vont diriger.
Mais c'est pas eux qui vont commander.
Exactement, c'était très clair.
Il y a un encadrement qui doit être bien précis avec des explications qui soient données, qui soient faites. On fait pas n'importe quoi, on n'a pas le chewing-gum.
Et on voit sur nos images, il y a à la fois des gendarmes, mais aussi des civils, donc ils doivent sans doute connaître très bien l'endroit et indiquer.
Mais c'est vrai que ces battues citoyennes, souvent il y a un mouvement comme ça qui se crée presque naturellement, parce que
c'est un élan
spontané, c'est vrai. Et en fait, c'est un mécanisme qu'on voit extrêmement fréquemment et qui est naturel lorsqu'il y a un événement à caractère traumatique. Parce que ce qui qualifie le trauma, c'est une confrontation à la mort avec un sentiment massif d'impuissance. C'est ce qui fait qu'on est, on est complètement sidéré dans l'effroi après un événement à caractère traumatique. Donc, aller faire une battue, organiser une marche blanche, essayer de se rendre utile, ça rend service. Ou pas toujours, mais en tout cas, ça a des vrais bénéfices parce que on n'est pas là à ruminer, on sort de ses pensées en boucle, de ses pensées macabres, et ça permet de tenir notamment pour la famille aussi.
Alors, si vous nous rejoignez maintenant, 6 jours après la disparition de la petite Liana, la procureure d'Auch a fait un point sur le dossier concernant le suspect numéro 1. On s'aperçoit qu'il y avait déjà eu des signalements. Et BFM TV, d'ailleurs, a révélé hier une histoire, une plainte qui n'a pas été traitée et qui date de 2025.
Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette plainte de 2025 qui n'a pas été traitée?
Donc, c'est une plainte qu'on vous a révélée hier soir sur BFM TV. C'est la maman et sa petite-fille Rosa, âgée de 10 ans à l'époque, qui ont poussé la porte de la gendarmerie en août 2025 et qui ont dénoncé des viols sur mineurs, sur cette petite Rosa, à répétition, par Jérôme Barella à son domicile. La plainte, elle a transité du parquet de Toulouse au parquet de Auch. Elle est repartie dans un service d'enquête et nous a expliqué la procureure. Il y a eu des actes d'enquête qui ont été diligentés et il était prévu de mettre cette personne en garde à vue. Elle ne l'a pas été et aujourd'hui, on se retrouve tous autour de la table à cause de la disparition de Liana. Donc, c'est cette plainte-là qu'on vous a révélée et c'est autant de questions qui ont provoqué la double enquête administrative qui a été annoncée cet après-midi par Laurent Nunez. Double enquête administrative pour essayer de faire la lumière sur visiblement des dysfonctionnements.
Parce que d'abord, il y a eu un problème de juridiction.
Oui.
D'accord.
Oui. Il y a deux parquets qui se sont renvoyés le dossier.
Et, ensuite, lorsque la plainte est arrivée dans la bonne juridiction, elle n'a pas été traitée.
Elle a été traitée, elle a été envoyée à la brigade de gendarmerie, mais il y a dû y avoir des actes d'enquête. C'est la lenteur de cette enquête qui a fait que cette personne n'a pas pu être mise en garde à vue ni auditionnée.
La procureure dit que la garde à vue, c'est à la fin, en fait.
Oui, c'est le dernier acte final, mais c'est inaudible, pardon.
C'est inaudible
pour les téléspectateurs. Ah, oui. Et c'est très difficile à
parce
défendre.
Qu'en attendant, cet homme a été libre d'agir, de continuer sa vie.
Surtout dans un dossier de pédocriminalité où on a des examens médico-légaux, où on a une petite fille de 10 ans qui raconte tout ce qu'elle a pu raconter avec la force et l'énergie que ça demande à sa maman d'y être allée avec elle, alors qu'elle y avait renoncé dans un premier temps parce que cet homme avait fait du chantage. Oui, c'est difficile.
Et puis, il y a une gradation. Hein. Donc, d'abord exhibition, ensuite attouchement. Et quand on parle de viol, pour ceux qui nous écoutent, le viol, c'est la pénétration de... contre le gré de la personne, évidemment, à 11 ans, on a bien compris, de un doigt dans la bouche, c'est un viol. Vous voyez, c'est pas forcément ce qu'on imagine tous. C'est des attouchements, on tripote, et puis
C'est quand il y a une pénétration.
On laisse un peu comment ?
C'est quand il y a une pénétration.
C'est quand il y a une pénétration. Pardon, c'est difficile à expliquer, mais vous voyez, on est quand même sur des soupçons de viol, donc c'est pas de l'exhibition, c'est pas de l'attouchement, et soupçons de viol, sur mineur. La peine encourue sur mineur de 15 ans, ça veut dire en dessous de 15 ans, ça veut dire c'est 30 ans, c'est 30 ans. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû bouger quand même un peu plus vite.
Surtout que vous avez dit tout à l'heure, Dominique, il y a souvent récidive en matière de pédocriminalité.
Ce genre de personnage, tout le temps.
Oui.
Tout le temps. Et je vais vous en citer plein. Vangeloven, celui qui a violé le petit Ennis Francis Evrard, tout le temps.
Mais c'est intéressant ce que dit Dominique, parce que quand on parle et qu'on dit pardon, c'est difficile à dire, c'est des mots qui sont difficiles à dire. C'est parce qu'on peine à dire ces mots qu'on ne prend pas conscience du crime que c'est la pédocriminalité. Il faut bien le dire. Un viol, c'est quand il y a pénétration d'un orifice d'un enfant. Alors imaginez maintenant, parce que moi je vais dire les choses, ça va permettre aux gens peut-être de réagir un petit peu plus vite et d'arrêter de se taire quand ils ont l'impression que, quand ils entendent
là,
le voisin.
Là, c'est pas les gens qui ont arrêté de se taire. La maman de la petite Rosa, elle ne s'est pas tue, elle a porté plainte. Finalement, ça ne servit à rien.
Vous allez voir ceux qui savaient et qui n'ont pas dénoncé.
Imaginez un corps d'un homme de plus de 30 ans sur un enfant de moins de 10 ans. Bah, il faut un peu se symboliser les choses, en fait, pour prendre conscience de ce que ça représente.
Mais si on se met aussi à la place des parents face au soir, ils écoutent, finalement, ils se rendent compte que déposer plainte, ça peut ne servir à rien s'il n'y a pas flagrance, en fait, si on comprend bien, parce que c'est classement sans suite ou c'est des mois d'attente avant qu'il se passe quelque chose.
Non, mais bon, ce qu'il y a, c'est que aussi, il faut toujours essayer de se faire accompagner au maximum par. Il y a des associations, même si les familles n'ont pas forcément d'argent, vous avez des protections juridiques, par exemple.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'y vais seul, je serai moins entendu que si j'ai déjà un avocat?
En théorie, normalement, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour déposer plainte. Mais malheureusement, la justice étant ce qu'elle est, c'est vrai que pour faire mettre votre dossier un peu sur le dessus de la pile, parfois quand même ça aide.
Ça marche comme ça.
D'être accompagné, ben simplement parce que on va être effectivement.
Oui, c'est pas très rassurant.
Moi-même, je peux être un peu harcelante des fois. Avec des services de police pour.
Vous serez moins impressionné qu'un client qui arrive pour la première fois dans un commissariat.
Et les services de police auront quand même tendance à moins m'éconduire que.
Je croyais qu'on avait travaillé quand même là-dessus sur l'accueil des victimes, notamment en matière d'agression sexuelle.
Ah oui, sur les violences conjugales, il y a eu des efforts. Sur les formations.
Mais la pédocriminalité,
je ne sais pas.
Non, mais heureusement, il y a eu des efforts. Voilà. Après, on apprend de ses erreurs. Aujourd'hui, cette affaire dramatique est terrible. J'espère que, au moins, à minima, ça va servir à mettre en lumière des dysfonctionnements et qu'on pourra essayer de s'améliorer.
Vous rendez compte qu'une avocate pénaliste d'expérience est en train de nous dire la justice étant ce qu'elle est. Vous avez raison. La justice étant ce qu'elle est. Ouais. Il y a Carole Maslia qui est avocate pénaliste aussi et qui a parlé sur BFM et qui a dit voilà, je dénonce moi un problème chronique sur les délais de traitement. On est confronté au quotidien à devoir quémander des informations, c'est-à-dire des ouvertures d'informations judiciaires à la suite de plaintes qui ne sont pas instruites. On est confronté à des délais extrêmement longs, c'est ce que vous dites, la justice est dans ce qu'elle est.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a trop de plaintes, peut-être des plaintes un peu mineures qu'on traite, on hiérarchise pas suffisamment, il y a pas des...
C'est ce que la justice va vous répondre.
Une priorisation.
Les parents vont vous répondre, on m'a pas entendu, on m'a mal reçu.
Les parquets.
La justice vous répondra, on n'a pas les moyens,
il y a pas de greffier, on n'a pas d'argent. Oui, mais il faut prioriser quand même. Faut prioriser, pardon, mais on connaît, nous, des affaires qui sont traitées rapidement, qui sont moins importantes que l'affaire d'une petite fille qui a été violée quand même sur l'affaire
Liana et celui dont on parle depuis 6 jours maintenant, c'est-à-dire le suspect numéro 1. Là, il est en prison.
Il a
été placé sous mandat de dépôt. Il a dit qu'il faisait jouer son droit au silence. Est-ce qu'à ce moment-là, les enquêteurs peuvent retourner le voir en disant « On vous signale, cher monsieur, qu'on a révélé maintenant publiquement tout ce qui vous concerne. » Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que ça peut être une tactique, une stratégie pour le faire parler?
La seule chose qu'il pourra, c'est quand il sera convoqué chez le juge. Les enquêteurs ne vont pas aller le revoir pour lui mettre la pression. C'est quand il va passer qu'il va être auditionné chez le juge. Je voudrais revenir sur ce que disait Dominique.
Pardon, et là, il faudra des preuves. Et preuves, c'est sans doute aussi le retour de la voiture qui est partie à l'IRCGN et qui va être entièrement désossée. Et si on retrouve une trace de sang, des traces ADN, d'autres éléments, alors là, confronté à la preuve et à la preuve scientifique, ça sera plus
compliqué. Parce qu'on lui mettra certainement, on lui mettra certainement les éléments en plus que tout ce qu'on apprend. Mais pour revenir sur ce que disait Dominique, il a tout à fait raison, c'est que je crois l'article, c'est le 222-23 du code pénal qui dit que le viol, c'est tout acte de pénétration, quelle que soit la nature, buccaux, génitaux et avec des objets
imposés.
Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, ce que peut subir un enfant. Un viol, voilà.
Bah,
donc,
justement.
Qui plaisait à un enfant. Et je pense que les enquêteurs vont pas aller le revoir. C'est quand il va venir voir le juge qu'il va dire voilà, monsieur, on a tout ça, votre passif et tout.
Ouais.
Et là, peut-être que ça va déclencher la vérité.